Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est François-Marie Didier, candidat de la droite et du centre à la législative partielle du 30 mai et 6 juin prochain dans le 20e arrondissement de Paris. Vous êtes également conseiller de Paris et à la métropole du Grand Paris, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors François-Marie Didier, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours personnel et politique ? C'est la deuxième fois que vous vous présentez à une élection à Paris en un an.
Alors mon parcours est assez classique, c'est celui d'un jeune Toulousain qui s'est installé à Paris il y a 15 ans pour travailler et qui a fondé sa famille. Avant de vous parler de mon engagement politique, je dirais que mon premier engagement a été celui de l'environnement, puisque c'est le secteur dans lequel je travaille depuis maintenant 15 ans. Vous l'avez rappelé, j'ai été élu conseiller de Paris, mais également conseiller de la métropole du Grand Paris en juin dernier. J'étais tête de liste de Rachida Dati lors des dernières élections municipales à Paris dans le 20e arrondissement où je vis avec ma famille. Et je dois le dire, mon engagement politique, je le dois à Rachida Dati. Mon engagement à ses côtés a été une évidence. Je me suis retrouvé dans son combat à Paris pour défendre les valeurs et les convictions de la droite, mais surtout pour défendre les Parisiens face au dogmatisme et à l'inaction de la majorité d'Anne Hidalgo dans notre ville. Le constat était simple, hein, un enlaidissement de la ville, une ville sale, une ville moins sûre, une ville que les familles abandonnent. Et c'est d'ailleurs ce que le mouvement Saccage Paris a démontré ces dernières semaines, hein, où la parole des Parisiens s'est libérée. Et contrairement à ce qu'affirme la majorité de la maire de Paris, c'est une bonne chose pour la démocratie que la parole se libère. Voilà, notre rôle d'opposition à nous, c'est de dire les vérités, même les plus désagréables. Et ce que je déplore en tant que jeune élu, hein, puisque vous l'avez rappelé, je suis élu depuis un an, c'est que la majorité d'Anne Hidalgo s'enlise trop souvent dans une pensée qui est toute faite et donne des leçons à tout le monde.
Alors vous êtes donc candidat à l'élection législative partielle du 30 mai et du 6 juin dans la 15e circonscription de Paris, un vote qui aura lieu dans une grande partie du 20e arrondissement suite à la démission de la députée sortante, Georges Paul-Angevin. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet arrondissement ? Quels sont ses atouts et ses faiblesses ?
Le 20e arrondissement, c'est la 11e ville de France, parce que l'arrondissement compte plus de 195 000 habitants, il y a 20% de retraités, 10% de jeunes de plus de 15 ans, un taux de chômage trop important évidemment, presque 12%, et c'est également un arrondissement qui compte environ 35% de logements sociaux contre 25% en 2001. Les atouts du 20e arrondissement, il y en a évidemment beaucoup. Tout d'abord, c'est l'esprit de village qui demeure encore et qu'il faut vraiment préserver. C'est l'évie des nombreux quartiers du 20e que je défends, évidemment. C'est le tissu associatif, hein, qui est important dans cet arrondissement et qui fait un travail énorme. C'est la jeunesse, hein. Je viens de rappeler les chiffres dont il faut évidemment s'occuper. Et puis le 20e, ce sont aussi plusieurs lieux emblématiques de Paris, hein, à commencer par le Père Lachaise, des lieux culturels comme la Bellevilloise, la Maroquinerie, le Théâtre National de la Colline, hein, qu'on espère vite voir réouvrir. Et puis le 20e, c'est l'histoire de Paris, c'est la Commune, c'est les personnalités qui ont fait l'histoire de France, comme Léon Gambetta, Léon Blum, qui ont été députés de l'arrondissement, Édith Piaf, Barbara, puis tant d'autres.
Une terre d'immigration aussi, puisque, par exemple, il y a la fameuse association culturelle berbère dans le 20e arrondissement.
Tout à fait, c'est un arrondissement qui est riche par sa diversité. Évidemment, il y a plus de 100 nationalités qui coexistent dans l'arrondissement. Effectivement, il y a eu beaucoup de berbères, beaucoup de kabyles qui sont arrivés dans le 20e arrondissement tout au long du 20e siècle, qui font encore la force de cet arrondissement et y a beaucoup de anciens de bar qui sont d'origine kabyle et qui vous racontent aussi une histoire, je dirais, franco-berbère, parce que c'est vrai que les kabyles sont arrivés en France il y a longtemps, et pour beaucoup, et ça c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, on construit le métro parisien.
Alors les faiblesses de l'arrondissement, bah, il y en a, c'est aussi pour ça que vous êtes candidat, j'imagine.
Bien sûr, bien sûr. Bon, les faiblesses, moi, je viens de parler des lieux emblématiques de l'arrondissement. Je crois que les grandes faiblesses de cet arrondissement, c'est que il faudrait qu'on développe davantage de tourisme, notamment à travers une meilleure offre hôtelière, hein, pour que les touristes qui viennent dans le 20e, hein, parce qu'ils viennent au square de Belleville, ils viennent évidemment au Père Lachaise, mais qu'ils restent et qu'ils se logent dans le 20e. Ça, aujourd'hui, c'est une des faiblesses. Il n'y a pas assez d'hôtels dans lesquels peuvent rester les touristes. Ensuite, bon, il y a évidemment des problèmes de mobilité, d'accessibilité, hein, dont les commerçants se plaignent beaucoup et de plus en plus. Il y a une densification urbaine, hein, aussi qui est importante, puisque comme dans beaucoup de quartiers parisiens, bah, la majorité municipale n'hésite pas à densifier là où justement il ne faudrait pas. Et ce qui malheureusement dénature certains quartiers. Et puis enfin, bah, une des grandes faiblesses, c'est, j'ai dit, 35% de logements sociaux. C'est un parc social qui est quand même très dégradé. Je prends l'exemple de Piton d'Hivernois qui va heureusement être réhabilité, mais après 20 ans, donc c'est trop long. Donc c'est évidemment des classes populaires qui vivent dans des conditions très difficiles et qui ont évidemment été accentuées par la crise sanitaire, les confinements successifs. Et puis pour ceux qui télétravaillent, bah, voilà, ils étaient obligés de rester chez eux.
On a compris finalement quelles étaient vos priorités pour les habitants de votre circonscription, si vous êtes élu député. Parlons aussi de vos priorités sur le plan national, puisque vous serez amené à voter des lois si vous êtes élu.
Tout à fait. Écoutez, moi, je être candidat à cette élection législative, vous l'avez rappelé, qui tiendra les 30 mai et 6 juin prochain, donc dans une grande partie du 20e arrondissement, hein, qui est la 15e circonscription, bah, c'est tout simplement la continuité de mon ancrage local, hein, pour défendre mon arrondissement et Paris à l'Assemblée nationale. De nombreux thèmes parisiens comme la sécurité, l'école, le logement, je viens d'en parler, les solidarités, sont des thèmes qui sont nationaux. Nous avons fait ce constat avec Rachida Dati, donc moi je souhaite évidemment les porter lors des prochains combats qui attendent ma famille politique, à commencer par cette élection législative, et puis par mon expérience, mon parcours professionnel, évidemment je pèserai également sur les sujets qui concernent l'environnement, puisque l'écologie ne doit pas être que punitive, hein, ce serait vraiment trop simple et trop simpliste, donc moi je suis pour une écologie qui soit pragmatique et qui doit faire le lien avec nos vies de tous les jours.
François-Marie Didier, Emmanuel Macron a fait un déplacement lundi sur la sécurité à Montpellier. Il a promis davantage d'effectifs sur le terrain, 10 000 policiers et gendarmes d'ici 2022. Il promet également un débat sur les dangers de la drogue, sur ces sujets régaliens, traditionnellement des thèmes de la droite. Le chef de l'État répond-il à la demande de sécurité des Français ?
Personne n'est dupe des raisons qui ont poussé le président de la République à s'exprimer sur les problèmes de sécurité que connaît notre pays. Hein. L'élection présidentielle est l'année prochaine et le président de la République s'invente un bilan en matière de sécurité. Quand Emmanuel Macron dit « je me bats pour le droit à la vie paisible », on voit bien qu'il est déconnecté de la réalité. La réalité, elle est tout autre. C'est une explosion des violences contre les personnes, c'est une explosion des violences contre les forces de l'ordre, contre les pompiers. Il suffit de voir les images récentes où des policiers sont attaqués à coups de mortier. Moi-même, dans le 20e, j'ai assisté à des scènes de violence inouïe avenue Gambetta lors des débordements de la manifestation contre la loi de sécurité globale en décembre dernier. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que les Français n'en peuvent plus. Et pour ne parler que de Paris, j'invite Emmanuel Macron à se rendre aux portes de Paris dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e arrondissement. Que verra-t-il ? Il verra des quartiers qui sont délaissés, des trafics, des personnes qui ne respectent pas le couvre-feu et qui empoisonnent la vie des habitants de ces quartiers, et tout ça en toute impunité. Donc plus de policiers, plus de moyens, plus de formations, de véritables polices municipales armées formées pour lutter contre les violences du quotidien. C'est d'ailleurs ce dont ne veut pas Anne Hidalgo à Paris, une justice intraitable et plus de place en prison. Voilà, pourquoi attendre 4 ans pour lancer de tels chantiers, si ce n'est pour préparer l'élection présidentielle. Donc je dirais que les mots c'est bien, l'action c'est mieux.
La loi sécurité globale dont vous avez parlé a été adoptée définitivement au Parlement. Elle ouvre la voie à la création d'une véritable police municipale à Paris. C'est une bonne nouvelle pour les Parisiens ?
C'est une bonne nouvelle s'il y avait une vraie police municipale à Paris. Là, ce que souhaite faire de la police municipale Madame Hidalgo, voilà, ce ne seront pas la police municipale ne sera pas armée, ce que nous souhaitions, ne sera pas véritablement formée. Enfin bon, il y a encore quelques zones d'ombre. Aujourd'hui, il n'y a pas de police municipale à Paris. Voilà, et je le déplore comme les élus de notre groupe au sein du Conseil. On avait fait des propositions, elles n'ont pas été entendues. Bon.
Les états généraux de la laïcité ont été lancés ce mardi par Marlène Schiappa. Qu'est-ce que vous attendez de ces travaux qui vont inclure notamment une vaste consultation de la jeunesse ?
J'ai peur que ces états généraux soient une pâle copie du grand débat national qu'avait organisé Emmanuel Macron il y a quelques mois. Donc inviter tout ce que la France compte d'intellectuels, de personnalités, pour qu'au final, rien de concret ne soit vraiment proposé. On ne peut pas diriger un pays, trouver des solutions de communication. Plus sérieusement, s'agissant de la laïcité, je suis assez d'accord avec la CFDT. Il faut arrêter de faire de la laïcité un objet d'agitation médiatique permanent. La laïcité, c'est notre socle. La France, les Français y sont particulièrement attachés. La laïcité, c'est un principe qui a été édicté par la loi de 1905. Donc quand on parle de laïcité, il ne s'agit pas de valeurs comme malheureusement on l'entend trop souvent. Car les mots ont un sens. Un principe, c'est une notion qui fait référence au droit. Et le droit n'a pas édicté aux citoyens les valeurs qu'ils doivent choisir. D'ailleurs, chacun a les siennes et c'est très bien comme ça. Le droit, on doit l'appliquer et le faire respecter. Donc à ceux qui ne respecteraient pas le principe de laïcité, on doit leur opposer la loi, et notamment le droit, s'il faut respecter des dispositions pénales quand c'est nécessaire, évidemment. Donc, pour vous répondre sur, je ne crois pas vraiment à ces états généraux de la laïcité, j'y vois plutôt un coup de communication de Madame Schiappa. Je crois qu'en matière de laïcité, il faut du courage politique et faire respecter le droit et la loi.
Alors j'aimerais qu'on évoque le dernier Conseil de Paris, François-Marie Didier, car vous avez évoqué le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand, qui sera célébré par les socialistes le 11 mai prochain, peut-être aussi par les Français en général. Vous allez vous associer à cet hommage, vous qui êtes un élu de droite et du centre ?
Ce que j'ai dit au dernier Conseil de Paris, c'est évidemment que François Mitterrand a marqué l'histoire politique de notre pays. Donc cette célébration du 10 mai 1980, ça a un mérite, c'est que ça nous plonge finalement dans une autre époque, dans un autre temps, dans l'histoire. François Mitterrand, il incarnait une gauche qui malheureusement n'existe plus. C'était une gauche qui respectait l'histoire, j'ai envie de dire. François Mitterrand, c'était à la fois toute la modernité, les aspirations de la jeunesse en 1980, mais c'était aussi tout ce qu'il a démontré durant ces deux septennats. C'était évidemment le respect de la langue française, dont il était amoureux, donc il était amoureux des livres et des mots. C'était la grande histoire de France, il était capable de célébrer le millénaire capétien, mais aussi le centenaire de la Révolution. C'était le respect des institutions, et notamment des institutions de la Ve République, qu'il a combattu, d'ailleurs dans son livre Le coup d'État permanent, mais qu'il a préservé durant deux septennats. Et puis c'était aussi une France d'hier et d'avant-hier, une France qui n'existe plus, mais c'était, voilà, François Mitterrand la France était enracinée dans la France. Je ne sais pas si je m'associerai à l'hommage qui sera fait au président, mais j'ai tenu à rappeler, voilà, certaines vérités où aujourd'hui on a une gauche qui voit l'histoire que de façon dogmatique. J'ai voulu rappeler que François Mitterrand, lui aussi, avait une part d'ombre et une part de lumière. La part d'ombre, c'était Vichy, c'était la Francisque et tout ça, mais voilà, c'est un homme dans sa complexité, comme l'histoire est complexe et qu'il est difficile, je dirais, d'analyser sans regarder cette complexité. On n'est pas obligé de réécrire l'histoire à chaque fois. Donc je ne sais pas si je m'associe à cet hommage, mais en tout cas, voilà, je voulais rappeler quelques vérités sur François Mitterrand, et qui fait évidemment partie de l'histoire politique et de l'histoire de notre pays.
François-Marie Didier, dans cette émission, nous avons reçu plusieurs élus qui appartiennent à l'équipe réunie autour de Rachida Dati à Paris, de nombreux élus qu'on ne connaissait pas il y a encore un an. Quel est l'esprit qui vous anime? De quelle manière travaille-t-on au service des Parisiens quand on est dans l'opposition?
Moi, je dirais que pour ma part, je suis doublement dans l'opposition, parce que je suis à la fois dans l'opposition au conseil d'arrondissement du 20e, et puis dans l'opposition au conseil de Paris, au sein du groupe présidé par Rachida Dati, qui est le groupe Changer Paris. Rachida Dati, quand elle l'a mené la campagne pour la droite et le centre à Paris l'an dernier, ben, a fait émerger une nouvelle génération d'élus, hein, dont je fais évidemment partie, et puis également des élus d'expérience, hein, qui nous conseillent, nous, en tant que jeunes élus, à commencer par les maires d'arrondissement et les parlementaires qui composent le groupe. Je dirais que dans l'ensemble, on est tous des élus de terrain, avec des convictions, et je crois qu'il y a une certaine fierté d'appartenir à ce groupe qui est présidé par Rachida Dati, qui démontre qu'elle sait jouer collectif, qui nous laisse une grande liberté dans nos prises de parole, hein, notamment au Conseil de Paris, qui nous fait bénéficier de son expérience, de son énergie, de sa vision, et qui nous a donné un cap. Donc en fait, c'est un peu tout le contraire de ce qui est dit sur Rachida Dati d'ailleurs. Nous, notre objectif, il est clair, hein, c'est reconquérir Paris, c'est changer Paris, et nous y employons sur le terrain.
Dernière question, François-Marie Didier, vous êtes arrivé en deuxième position au second tour des municipales devant Daniel Simonet et Frédéric Calandra, la maire sortante qui avait rejoint Emmanuel Macron. Dans le 20e, l'élection législative partielle, ça se jouera entre la candidate socialiste et vous-même?
Celui qui remportera cette élection, c'est celui qui arrivera à mobiliser le plus possible, comme les autres candidats. C'est ce qu'on craint, c'est évidemment un taux de participation faible. C'est déjà le cas de toute façon en général pour une élection législative partielle. En général, c'est 20% de participation. Donc celui qui arrivera à mobiliser l'emportera. Aujourd'hui, voilà, on est plusieurs candidats. Je suis le seul qui représente la droite et le centre. Évidemment, je souhaite évidemment être au deuxième tour. Je souhaite remporter cette élection. Je m'en donne les moyens. J'essaie de démontrer, moi, que je suis un élu de terrain, que j'essaie d'être crédible, parce que c'est avant tout ce qu'on demande à un homme politique. Et donc, finalement, moi, je suis évidemment le représentant de la droite et du centre, mais tous les jours, je vois des gens qui ont toujours voté à gauche et qui aujourd'hui me disent on n'en peut plus, et donc je me dis qu'il y a évidemment une place pour moi.
Merci François-Marie Didier. Je rappelle que vous êtes candidat de la droite et du centre à l'élection législative partielle du 30 mai et du 6 juin prochain dans le 20e arrondissement de Paris. Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.